De l'autre côté de la musique, une émission proposée et présentée par Michel Jardella. Bonjour Michel.
Bonjour.
Toujours des thématiques qui font rebondir chaque mois cette émission, avec aujourd'hui effectivement un axe qui a inspiré bon nombre de compositeurs. La preuve, puisque c'est un premier volet, donc
oui, ça en vend plusieurs. Oui.
Ça suggère un peu quelque chose de fructueux. Et puis, toujours aussi une thématique qui n'en finit pas, peut-être d'inspirer d'autres compositrices et compositeurs. Je vous laisse dévoiler donc le thème de ce mois.
Alors notre thème, c'est la nuit.
Ah.
Comment les musiciens ont abordé la nuit? Alors, elle a été abordée de façon complexe, parce que la nuit, c'est compliqué. Ça peut être le repos, ça peut être la nuit agitée avec les fantasmes, les rêves. Ça peut être la nuit où les sorciers se rencontrent sur le mont Chauve, ou la nuit de Valpurgis, hein, des histoires de Faust, etc. Donc on va trouver chez les compositeurs toutes ces façons différentes de penser à la nuit. Voilà, alors on va commencer bien sûr par l'un des plus romantiques compositeurs, La nuit dans la forêt, hein, Schubert. Schubert, bon, donc se trouvait donc à Vienne, un compositeur viennois bien sûr, et il eut cette particularité, c'est de composer de façon la plus riche après le passage de Napoléon, après 1815, hein. Et le chancelier qui arriva au pouvoir par l'empereur d'Autriche était Metternich, le chancelier Metternich. Et Metternich, était un peu furieux parce que la révolution avait laissé des traces en Autriche. Napoléon avait laissé quelques idées nouvelles, révolutionnaires. Et Metternich avait décidé une chose. Il avait interdit tout rassemblement de plus de 8 personnes. Dès qu'il y avait 8 personnes, on était emprisonné. C'était clair et net. Donc, pour les musiciens, c'était quand même un problème.
Pour les chorales, notamment.
Pour les chorales, et oui. Et Schubert écrivit pratiquement de la musique pour chœur, qu'il transposa pratiquement après pour 8 musiciens.
Ah oui, d'accord.
Et voilà l'origine de l'histoire. Enfin, là, j'ai trouvé quand même des choses qui ont été transcrites pour chœur. Et Schubert avait été dans le coup de toute cette intelligentsia germanique et allemande, et autrichienne surtout. Et je vous propose, pour nous mettre dans l'atmosphère d'une forêt allemande et profonde, avec des cors qui résonnent, je vous propose un poème d'un poète qui est très très célèbre en Autriche, Jan Gabriel Scheid. Et ce chant nocturne, je vous lis quelques extraits, bien sûr. « Toujours nous te saluons aux nuits, mais doublement ici dans la forêt, où ton œil rit plus furtivement, où ton pas résonne plus discrètement. Sur la coupe des frondaisons, tu verses une lumière d'argent et suspends pour nous la lune et ses rayons comme une lampe dans l'enchambre des feuilles. Ton langage est le murmure des brises, tes chemins, des rayons entrelacés, sur quoi ta bouche pose un baiser apaisant. » Ferme l'œil et plonge dans le sommeil. Et pourtant il fait trop beau pour dormir. Debout et réveillé au son du cor, en vague d'accent plus clair, ce qui tôt assoupi s'est endormi. Déjà quelque chose s'anime dans les sous-bois. Les oiseaux croient que la nuit s'est enfuie. Les chevreuils errants disparaissent, craintivement, pensant que bientôt poindra le jour. Les cimes des arbres mugissent puissamment, la source teinte comme si le jour s'était éveillé, et lorsqu'en chœur nous chantons, la nuit éclaire chez elle dans la forêt, pareillement l'écho nous répond, elle est chez elle dans la forêt. Ainsi, dans la forêt, doublement, nous te saluons, ô douce nuit, car tout ce qui te rend si belle nous sourit dans la nuit encore plus bellement. Nous sommes au fin fond du romantisme. Voilà.
Donc après, ce qui laisse introduire ce chant nocturne.
Ce chant de nocturne de Schubert.
Thank you.
Schubert, chant nocturne dans la forêt, une œuvre plutôt méconnue, Michel.
Oui, oui, de toutes ces œuvres de Schubert, ce n'est pas ce qu'on entend le plus souvent. D'abord, c'est très difficile à trouver. Et puis, il faut des choristes parfaitement entraînés, trouver des cornistes qui s'en sortent bien, puisqu'ils sont tout seuls là, à jouer. Enfin, c'était quand même un très beau morceau empreint de ce romantisme cher à Schubert.
Schubert qui a été assez fructueux, un peu prolifique dans
tous ses leaders, dans tous ses... Il a écrit quand même 9 symphonies.
Hein. Bon, 600 leaders, pardon.
600 leaders, oui, qui sont une mine pour les chanteurs, pour les barytons en général, et pour les femmes aussi. Donc c'est un des musiciens les plus riches. Et puis il a écrit beaucoup de musique de chambre, hein, toute une série de quatuors, de quintettes, de trios, qui sont tous célèbres et qui ont peuplé les musiques de films régulièrement. Hein. Donc c'est Schubert dans l'histoire de la musique, ce n'est pas rien.
Ouais, ouais. Sans compter toutes les sonates pour piano, ça c'est aussi impressionnant.
Les œuvres pour piano, oui, il était très 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 prolifique, mais il avait instauré à Vienne les soirées, et c'était des soirées où entre copains on amenait un peu de bière, quelques dames, piano, violoniste, et on passait de ce que ça s'appelait les Schubertiades, des soirées à jouer ensemble et profiter de la vie. Quoi.
À l'instar de ce qui pouvait aussi se passer dans le centre de la France, en Auvergne peut-être.
Alors, en Auvergne, c'est plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué.
Voilà, en Auvergne, donc j'ai choisi, là, je vous propose un morceau de Canteloube. Canteloube était un musicien d'origine auvergnate, il était né à Annonay. Et ses parents étaient donc du Massif central. Je crois que son père était d'Auvergne et sa mère était du Cantal. Voilà. Donc il a toujours vécu en Auvergne. Et c'était un compositeur. Hein. Il est allé à Paris, élève de Dindy, de Vincent Dindy, qui lui aussi était cévenol. Donc il a vécu dans cette époque. Pour que du 19e, du fin du 19e et 20e, hein, disons plutôt 20e.
Voilà. Oui.
Et enfin, il s'est intéressé au folklore, qui deviendra après une animation, parce que les gens vont retrouver ses partitions de folklore. Il avait passé son temps à noter tous les chants d'Auvergne, tous les chants folkloriques. Et après 1968, beaucoup de jeunes sont retournés à sa musique et ont fait du folk, hein, à partir des documents de Canteloube. Alors là, je vous propose, bien sûr, ce qu'il a écrit peut-être de plus célèbre, c'est ses chants d'Auvergne. Ces chants d'Auvergne, bon, c'est bien sûr, il les avait copiés, transcrits, et ensuite il les a orchestrés. Alors moi, l'histoire que je vous propose, c'est donc l'harmonisation d'un chant d'Auvergne, hein, qui s'appelle Baleiro. Baleiro a été écrit, je vous lis son biographe, ce qu'il en dit. C'était un soir de 1903, à la nuit tombante, dans la montagne qui domine Vic-sur-Cèze, dans le Cantal. Il contemplait le majestueux paysage qui s'offrait à ses yeux, quand tout à coup s'éleva le chant d'une bergère qui lançait ses phrases à toute volée. Se gardant bien de se montrer, il commença à noter la mélodie, lorsque de très loin, comme porté par la brise qui se lève la nuit sur la montagne, il perçut à peine perceptible la voix lointaine d'un autre berger qui répétait le thème à 6 kilomètres de là. Voilà, alors ne vous étonnez pas, ce n'est pas chanté en français, c'est chanté en catalan. L'Auvergne avait dans sa tradition le patois, qui était une langue d'oc. Donc tous ces chants d'Auvergne vont pratiquement être en catalan. Voilà, alors je vous propose El Baleiro de Canteloube, Joseph Canteloube.
Bien voilà, une belle retranscription des chants d'Auvergne, très onirique, hein, oui, par les soins exactement. De ce compositeur Joseph Canteloube, qui a bien fait, en tout cas, rayonner aussi bien ces chants traditionnels auvergnats, même jusque sur Paris.
Jusque sur Paris, et puis nous avons une série de chants très bien orchestrés, finement orchestrés, on a pu l'entendre, avec beaucoup de bois, c'est très, très fin hein, comme musique.
Une autre facette de la nuit, une autre facette classique, de la nuit,
bien sûr,
avec Joseph Canteloube.
Voilà.
On poursuit avec un maître aussi en matière d'onirisme et puis aussi de faire resplendir la nuit.
Voilà. Alors, je vous propose quelque chose d'original. C'est la sérénade nocturne de Mozart. Alors, sérénade, bon, on sait que la nuit, normalement, on prenait sa guitare, on allait sous le balcon de la bien-aimée et on grattait son instrument pour essayer de la séduire. Voilà. Donc, Mozart s'est un peu amusé de cette histoire de sérénade, je crois. Et il a écrit un morceau un peu particulier, quand même, qui est composé de deux groupes d'orchestres, de musiciens, dont de timbales, et qui se répondent. Alors on a un petit drame, c'est que le morceau qu'on avait était composé de cinq parties, mais dans les histoires aventures des partitions, il nous en reste que trois. Donc Mozart espiègle, et il faut faire attention avec Mozart, même si la musique paraît très très simple au premier abord, elle cache derrière elle une complexité, un savoir-faire d'un très très grand niveau. C'est toujours comme ça chez Mozart, ça semble tellement naturel qu'on oublie que derrière il y a quelqu'un qui est génial et qui a un talent extraordinaire. Alors je vous propose cette petite sérénade nocturne, le premier mouvement de cette sérénade qui a été écrite, il a été déjà d'un âge avancé, et qui a été écrite quand même à Salzbourg. Hein. Voilà, Mozart, sérénade nocturne.
Thank you.
sérénade nocturne avec un Mozart qui était déjà quand même bien accompli
en pleine maturité,
en,
oui.
pleine maturité hein, dans ses œuvres musicales. On poursuit dans cette thématique de la nuit, premier volet pour De l'autre côté de la musique. Avec bien, on était en Languedoc il y a quelques instants avec Joseph Canteloup. On va retourner dans un peu plus profondément même en terre espagnole, avec un compositeur qui était peut-être entre l'Italie et l'Espagne, si on
oui,
peut le définir ainsi.
C'est Boccherini, et entre l'Italie et l'Espagne, il était très apprécié à Paris aussi. Oui. Voilà, alors Boccherini, il est arrivé une histoire étrange. Quand il est allé en Espagne, il était protégé par, par Lucien Bonaparte, nous sommes à ces moments-là, hein. Et le roi d'Espagne avait un fils, Don Luis, et Don Luis avait sa cour, hein, et Boccherini était attaché à ce compositeur. Boccherini était attaché à ce fils du roi, Don Luis, et Don Luis fit l'irréparable, il fit un mariage morganatique. C'est-à-dire qu'il avait épousé quelqu'un qui n'était pas de sa classe. Donc, il fut expulsé de Madrid et on l'expédia dans les profondeurs de l'Espagne. Et il resta donc avec son employeur, qui était Don Luis, et il eut cette nostalgie de Madrid parce que... À cette époque-là, au XVIIIe siècle, être au fin fond de l'Espagne par rapport à la vie joyeuse, animée de Madrid, c'était un peu difficile. Hein. Donc Boccherini suivit son maître. Et le morceau que nous écouterons, je le trouve un peu nostalgique. Ça s'appelle la Retirata di Madrid, la retraite de Madrid. Cela nous décrit... le passage des soldats la nuit dans une rue de Madrid qui à minuit faisait toujours une tournée pour clore les auberges, etc. Donc c'est un moment aussi d'émotion. C'est pas là où était Boccherini avec Don Luis que la vie était forcément facile. Mmh. Et c'est une espèce de musique un peu nostalgique. Alors c'est une composition un peu originale puisque c'est un quintet, 4 cordes avec une guitare. Et c'est une œuvre qu'on entend assez peu souvent finalement, mais qui est très évocatrice de l'époque. Hein. Boccherini, qui a écrit de très beaux concertos pour violoncelle, qui a écrit des symphonies, qui est un compositeur prolifique, hein, est très très intéressant, qui n'a pas la célébrité auquel il aurait pu prétendre, mais qui est quand même un très 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 bon musicien. Alors donc je vous propose cette Retirata de Madrid, hein, cette retraite de Madrid, avec bien sûr ces quelques notes de guitare. Alors bien sûr, la nostalgie, c'est cette troupe qui disparaît dans la nuit au fond d'une ruelle de Madrid.
Voilà pour ce dernier extrait musical pour ce premier volet émission thématisée sur la nuit, avec à l'instant compositeur Luigi Boccherini.
Boccherini, tout à fait.
Eh bien, merci Michel déjà pour ces premières propositions nocturnes. On se retrouve dans un mois exactement pour évoquer d'autres compositeurs qui ont aussi bien su sublimer la nuit. Hein.
Bien sûr, oui, oui. La nuit est un moment un peu étrange, comme on l'a dit. Ça peut être un moment de repos comme un moment de tourment. Mmh. Et les compositeurs en ont profité, surtout les romantiques qui ont trouvé dans la nuit à la fois le repos et puis aussi les nuits agitées du Valpurgis, toutes ces nuits de sorcières, etc. Les contacts avec le diable se faisaient à minuit. Bon, je veux dire, tout le romantisme et avec la nuit.
Eh bien, merci beaucoup. On découvrira d'autres facettes hein, de cet épisode d'une journée de 24 heures qui a su effectivement mobiliser beaucoup de compositrices, compositeurs. À bientôt.
À bientôt.